Bienvenue dans l'émission de Medinov et Centaure Santé, où nous nous retrouvons aujourd'hui au sein du SAMU Social pour notre deuxième hors-série dédiée à la prévention pour la santé des femmes. C'est un sujet d'importance qui continue aujourd'hui de mobiliser de nombreux acteurs et j'ai souhaité dans ce cadre donner la parole à Manon David, chargée de projet santé au sein du service Delta du SAMU Social de Paris, Marie Lazzaroni, qui est responsable de la mission promotion de l'égalité au SAMU Social de Paris également, ainsi qu'à Pauline Martineau, médecin de santé publique, ancienne conseillère du ministre de la Santé en prévention, santé mentale, jeunesse et santé des femmes. Bien, bonjour à toutes les trois. Merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui dans les locaux du SAMU Social de Paris pour évoquer la prévention pour la santé des femmes en cette journée du 8 mars, qui malheureusement est un sujet sur lequel on doit se mobiliser continuellement. Alors aujourd'hui, on est avec des actrices qui viennent de milieux un peu différents, c'est ça qui est intéressant, SAMU Social de Paris et puis médecin de santé publique, donc on va avoir une vision un peu globale de ce sujet. Et j'aimerais commencer par aborder avec vous, Marie, le profil de ces femmes qui sont accompagnées par les différents pôles du SAMU Social de Paris, et puis que vous puissiez un petit peu nous parler des grandes missions du SAMU Social auprès de ces femmes.
Oui, alors c'est vrai qu'au SAMU Social de Paris, on a plusieurs dispositifs, que ce soit des accueils de jour, des hôtels, des centres d'hébergement et des équipes de maraude. Et donc, selon le service, selon les équipes, les profils des femmes qu'on rencontre sont assez différents. Et les besoins, du coup, sont assez hétérogènes aussi. Pour donner quelques chiffres, même s'il faut prendre ces chiffres avec grande précaution parce qu'ils ne reflètent qu'une seule partie de la réalité, en hôtel social, en Ile-de-France, chaque soir, c'est environ 16 000 femmes qui sont hébergées. Dans les structures du SAMU social, vraiment en propre, c'est un peu plus de 300 femmes. Et on a aussi au SAMU social le numéro du 115 d'urgence qui a enregistré sur l'année 2023 en moyenne 117 appels de femmes isolées chaque jour pour lesquels on a décroché. Les réponses n'étaient pas toujours possibles derrière, mais auxquelles on a pu avoir un échange. Parmi les profils de ces dames, c'est vrai que dans les CHU et dans les hôtels, c'est les CHU familles et les hôtels, c'est souvent des profils qui peuvent être à peu près semblables. Donc, c'est beaucoup des femmes qui sont en situation donc de famille, notamment de famille monoparentale. En hôtel, ça représente les ménages monoparentaux, 40% des ménages qu'on accompagne. C'est souvent des femmes qui sont primo-arrivantes sur le territoire et qui sont donc en France depuis assez peu de temps. Et pour toutes, c'est bien sûr la question de l'éloignement des systèmes de soins et d'accès aux droits. Dans nos accueils de jour, là, les publics sont beaucoup plus hétérogènes. C'est beaucoup des femmes qui ont un parcours de rue soit très long, soit qui viennent de tomber dans un parcours d'errance, mais en tout cas qui sont en rue à ce moment-là. Et souvent, le déclencheur, c'est souvent des ruptures dans les parcours, des ruptures qui peuvent être cumulatives. En tout cas, un des points centraux qu'on retrouve chez toutes ces femmes hébergées, accompagnées, rencontrées, c'est la question aussi des violences. Les parcours de violence sont assez prédominants. Les enquêtes qui ont pu être réalisées parlent d'environ 90% des femmes qui auraient vécu des violences. Donc, il n'y a pas de données plus précises, mais c'est souvent ça, avec souvent des stratégies d'évitement quand on est à la rue pour s'héberger, des hébergements chez des tiers et des besoins un peu plus spécifiques que leurs homologues masculin. Et donc, au SAMU Social, on essaye justement de proposer des réponses adaptées à ces besoins différents. Donc déjà, le premier, c'est qu'on a des structures non mixtes, en propre, pour et spécifiquement les femmes. On a des CHU pour familles monoparentales, des accueils de jour, dans lesquels on a une attention particulière sur ces questions-là. Ensuite, bien sûr, c'est au niveau de l'accompagnement. Si la question de l'ouverture des droits, de l'accès aux droits est la même pour tous, par rapport aux femmes, on va avoir des attentions un peu plus particulières au vu des besoins qu'elles peuvent exprimer. Et puis, ça demande aussi une montée en compétences des professionnels sur ces questions-là, de formation, notamment sur les questions de prise en charge et de repérage des violences, et aussi de s'entourer d'acteurs spécialisés, puisque le SAMU Social, on est un acteur généraliste, mais on essaye de s'entourer au plus d'associations qui accompagnent ces publics-là. Et puis, bien sûr, on a des actions autour de la promotion de la santé, puisque au SAMU, on a cette particularité d'allier accompagnement social, sanitaire, pour en faire un accompagnement global. Et donc, on essaye de remettre au cœur des projets des personnes qu'on accompagne les questions de santé.
Merci Marie, c'est une réponse très complète. C'est bien d'avoir évoqué aussi le sujet des violences sur lequel on va pouvoir revenir aussi tout à l'heure, notamment avec Pauline. Manon, on va rentrer un petit peu plus dans les actions que vous mettez en place pour bien se représenter votre travail au quotidien. Est-ce que vous pourriez également nous parler des actions d'accompagnement, notamment des actions de confiance en soi qui sont développées auprès des femmes ?
Oui, alors d'abord sur la santé des femmes au SAMU Social de Paris, on a deux approches. Une approche collective avec des ateliers sur la santé de la femme dans les centres d'hébergement d'urgence et dans les hôtels. Et une approche un peu plus individuelle avec des consultations, notamment des consultations gynécologiques dans les différentes structures d'accueil pour femmes. Et également un accompagnement social individualisé dans la plupart des structures d'hébergement. On déploie également depuis 2021 un programme de médiation en santé sexuelle. Donc c'est un programme qui a été co-créé avec des associations communautaires de lutte contre le VIH et qui permet d'allier ces deux approches en 8 séances, donc qui permettent de faire des ateliers collectifs sur la santé globale, l'anatomie, la transmission et la prévention des infections sexuellement transmissibles, mais aussi les violences et le consentement, et qui permettent également de proposer des entretiens individuels pour proposer des orientations selon les besoins des femmes, mais aussi des dépistages si elles le souhaitent. C'est un programme qui avait été initialement pensé comme étant mixte, ouvert aux hommes et aux femmes. En réalité, on se rend compte que finalement, c'est plutôt les femmes qui se saisissent de ce programme-là et qu'elles apprécient cette non-mixité de fait, puisque c'est un espace où la parole est plus libre. Parler de santé sexuelle entre femmes, c'est généralement plus facile pour elles. Par ailleurs, au sujet de l'estime de soi, on propose des actions autour du rapport au corps, des ateliers autour du sport, de la sophrologie, du bien-être, mais aussi sur l'expression de soi. Donc il y a des ateliers poésie avec la Maison de la Poésie dans les centres d'hébergement d'urgence. On a aussi pu proposer des enregistrements d'émissions de radio avec les femmes hébergées en hôtel. Et puis, il y a tout un travail autour de l'insertion avec des cours de français, mais aussi des sorties culturelles et un travail sur l'insertion professionnelle grâce à la présence de conseillers en insertion professionnelle dans certaines structures. Ces actions mises en place permettent aussi pour les femmes d'investir des lieux qu'elles n'ont pas l'habitude d'investir habituellement. Je pense notamment aux cours de sport, à l'apprentissage du vélo sur la voie publique, mais aussi aux émissions de radio.
D'accord, merci beaucoup. Ça permet vraiment de comprendre un petit peu mieux ce que fait le SAMU social hein, sur cette thématique qui est fondamentale. On va aller vers une vision un petit peu publique des choses. Pauline, avec votre expérience, vous travaillez beaucoup sur la prévention en santé publique, notamment chez les femmes et les enfants. Donc c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Quels sont selon vous les besoins sur ces champs en France et quelles mesures doivent être portées par les pouvoirs publics en priorité ? Parce qu'on n'en parle peut-être pas assez.
Mais en fait, ça va recouper ce que vous avez dit toutes les deux sur les actions que vous menez. Il y a une première priorité qui est, si on regarde les inégalités entre les hommes et les femmes en termes de santé, la première, elle est sur le niveau de sédentarité et d'activité physique. Et ce niveau-là, il se creuse à partir du moment où les jeunes filles ont entre 9 et 10 ans, rentrent en collège, et là, il y a vraiment une chute de l'activité physique effectuée par les jeunes filles par rapport aux petits garçons. Donc il y a pour moi un premier chantier au niveau de tout ce qui est éducation nationale et périscolaire, d'embarquer les petites filles pour qu'elles puissent aussi faire du vélo, aller à la piscine, parce que c'est aussi dans plein de communautés quelque chose qui est plutôt réservé aux garçons. Donc il y a eu plusieurs priorités avec les plans vélo, les plans piscine et les plans promotion de l'activité physique pour tous à l'école qui ont été lancés. Donc ça qui répond à une première priorité de santé publique, notamment avec l'explosion de la sédentarité et de l'obésité dans notre pays et dans tous les autres pays du monde entier. Le deuxième champ, il est sur tous les aspects de la santé mentale. Santé mentale des femmes, à la fois on est un genre qui en parle beaucoup, plus que les garçons, mais à la fois on est aussi un genre qui subit beaucoup plus de discrimination, qui a beaucoup plus de besoins, et qui, dès qu'on se retrouve mère seule à la rue, on a une charge mentale énorme, un stress beaucoup plus important à gérer. Les compétences psychosociales, l'empathie, le fait de pouvoir... être capable de nommer ses besoins, être capable d'appeler à l'aide, être capable de collaborer avec autrui. On a les taux les plus bas de tous les pays de l'OCDE quand on regarde les classements à l'âge de 15 ans, les classements PISA au niveau mondial. Donc on a vraiment un deuxième enjeu de santé publique qui est la santé mentale des femmes, la santé mentale dès le plus jeune âge, qui est le développement de ce qu'on appelle les compétences psychosociales, ce socle de santé mentale positive dont on a tous besoin pour affronter les difficultés de la vie. Et notamment, vous parliez des femmes qui étaient à la rue, hyper difficile de rebondir après l'accumulation de toutes les violences qu'elles ont vécues. Donc elles ont d'autant plus besoin d'avoir des actions qui sont menées sur ce champ-là. Lutte contre, dans tout ce qui est santé mentale, prévention du suicide aussi. On a des hauts taux chez les personnes jeunes notamment, mais aussi chez les personnes seniors, et notamment les femmes. Et le troisième champ dans la santé mentale est tout autour de la grossesse. Donc là, on a mis en place des examens prénataux et postnataux pour pouvoir au moins faire un check-up avec les femmes et leurs partenaires, savoir comment ils se sentent, parce qu'ils ont quand même une énorme accumulation de fatigue, un choc hormonal, un chamboulement de vie. Et donc pour prévenir en tout cas l'aggravation de leur santé mentale à ce moment-là, on a mis en place ça, mais on a encore plein de choses à faire et à mettre en place pour être disponible pour eux. Et santé mentale, tout au long de la vie, en fait, on est à peine en train d'ouvrir la boîte de Pandore sur ces champs-là, puisqu'on est en train de détabouiser la santé mentale. On en parlait très peu avant le Covid. Là, maintenant, tout le monde en parle, donc on peut mettre aussi des indicateurs pour enregistrer la parole des gens. Donc on a une fausse explosion aussi des besoins en santé mentale, mais en fait qui correspond au fait qu'on ait ouvert la possibilité d'enregistrer les besoins des gens, et avant ils s'exprimaient peu, donc ils gardaient ça pour eux. Donc là c'est aussi une chance à saisir de pouvoir trouver des solutions qui correspondent aux besoins de santé mentale. Et peut-être dernier point en santé publique, donc j'ai dit activité physique, santé mentale. Le troisième point pour la santé des femmes, c'est tout ce qui est autour des maladies chroniques et cardiovasculaires, puisqu'en fait en médecine, donc du coup en venant de ce champ-là, tout ce qui est maladie qui concerne la particularité des femmes, en fait, nous a été très peu enseigné, puisque beaucoup de recherches pendant des années étaient faites principalement sur les hommes. Et puis, j'ai même fait de la recherche en laboratoire. Tous les animaux, en fait, on privilégie de faire de la recherche sur les animaux mâles plutôt que femelles, puisque les femelles ont des cycles. Et du coup, c'est un peu embêtant pour la recherche. En tout cas, c'est comme ça que ça nous est présenté. Donc, on nous demandait à l'époque, maintenant, c'est plus le cas. À l'époque, il y a 10-15 ans, on nous demandait de faire un maximum sur les mâles. Et donc, maintenant, on est en train de mettre la médecine à jour. Mais par exemple, moi, j'ai terminé mon cursus il n'y a pas très longtemps en médecine. Je fais 12 ans de médecine que j'ai terminé l'année dernière. J'ai eu très peu d'infos sur l'endométriose, qui était un champ quand même nouveau. Et donc, j'en parlais aussi autour de moi. Mais en fait, on s'auto-forme aussi grâce aux associations de patients, toutes nos lectures sur Internet. Et donc il y a tout un champ de maladies cardiovasculaires, maladies chroniques, avec des symptômes qui sont très spécifiques aux femmes. Par exemple, un infarctus du myocarde, donc l'arrêt cardiaque, les symptômes vont être très différents chez la femme, alors qu'en médecine, on nous apprend les symptômes chez l'homme. Le fait que ça diffuse dans le bras, qu'on a très mal d'un coup, qu'on a un peu de mal à respirer. Et les femmes, ça va être tout autre, vraiment d'autres symptômes. Donc ça, on n'a pas été formés là-dessus. Et donc ce troisième champ, vraiment, faire un chantier en santé publique sur la particularité des maladies chroniques pour les femmes.
Oui, on voit effectivement qu'énormément de sujets intimes, même chez la femme, émergent, mais depuis très peu de temps. Il y a encore beaucoup, beaucoup de travail. Simplement, Pauline, quand vous dites « on », vous pouvez préciser donc, de qui on parle, des pouvoirs publics en général ?
On met en place c'est l'administration qui est en place. Ce n'est pas forcément le gouvernement qui, avec les cabinets, etc., qui tourne fort. C'est l'administration qui s'est saisie de ces sujets-là. Et donc des gens qui restent pendant des années et qui vont pouvoir mener de A à Z des projets pour les femmes.
On parle des visions, évidemment, qui doivent être portées, des mesures qui doivent être portées. Quelles seraient les perspectives pour vous, Manon et Marie, au sein du SAMU social pour 2024, si on parle de la prévention pour la santé des femmes ?
Pour rebondir, justement, une des prochaines actions qui va se dérouler, c'est qu'on va avoir l'ouverture d'un centre d'hébergement d'urgence spécialisé en pré- et post-maternité. Il y a un nombre croissant, ça a été beaucoup aussi repris dans les médias, de femmes qui vont ou qui viennent d'accoucher, qui sont sans solution d'hébergement avec donc des nourrissons. Donc là, à l'été 2024, devrait ouvrir un nouveau CHU qui sera donc pour ces femmes-là. Ce sera une quarantaine de femmes qui seront accueillies avec leurs nourrissons. L'idée, c'était justement de pouvoir répondre déjà à la saturation des dispositifs d'hébergement qui n'a pas permis de prendre toujours à temps en charge ces femmes. Notamment, on se rend compte aussi souvent qu'elles peuvent être prises très tard en charge dans leur grossesse, enfin presque à la fin de la grossesse. L'idée, c'était aussi que parfois, elles sont hébergées dans des lieux très isolés où elles n'ont pas forcément autour d'elles les ressources qu'elles auraient besoin dans cette période-là. Donc là, ça sera un CHU qui sera vraiment dans Paris. Et puis aussi avec une équipe et un accompagnement qui sera un peu plus spécialisé, ce qui n'est pas forcément le cas à l'heure actuelle. Donc l'idée, ce serait notamment d'avoir des professionnels dans la puériculture qui pourront soutenir les femmes dans les premiers mois de l'enfant, dans le lien à la parentalité, mais aussi leur suivi à elles en postpartum.
Ce CHU, il est prévu pour quand ?
Il est prévu pour l'été 2024.
D'accord, donc c'est vraiment dans très peu de temps. Très bien. Et Manon, donc sur les perspectives de votre côté, selon vous ?
Tout à fait. On va travailler sur la précarité menstruelle, donc autant sur les hôtels que sur les centres d'hébergement d'urgence. L'idée, c'est de proposer, de mettre à disposition de toutes les structures du SAMU social de Paris des protections périodiques pour pouvoir les distribuer en cas de besoin auprès des femmes rencontrées, mais aussi proposer des formations pour les acteurs de terrain grâce à notre partenariat avec l'association Règles élémentaires pour permettre d'animer des ateliers autour de la santé menstruelle, et ce sera aussi l'occasion d'aborder les questions notamment d'endométriose dont vous parliez tout à l'heure. Et on souhaiterait également intégrer les hôteliers à cette démarche en les incitant à mettre à disposition dans leur structure des protections périodiques pour les femmes hébergées. Au sujet du programme de médiation en santé sexuelle dont je parlais tout à l'heure, on souhaiterait, aujourd'hui il est déployé dans les hôtels, on souhaiterait le déployer dans les centres d'hébergement d'urgence, mais aussi le partager à des partenaires en externe. Certains se sont déjà manifestés comme Médecins du Monde à Nantes ou Emmaüs Solidarité en Île-de-France. Et puis évidemment l'accès un petit peu plus sur les violences, on en a déjà parlé tout à l'heure. Un dernier point, le rapport de la CIVIS de 2023 mentionne que les antécédents de violences sexuelles dans l'enfance multiplient par 3 le risque de précarisation et d'exclusion. Et au vu du nombre de personnes, d'enfants hébergés et accompagnés par nos différentes structures, il y a un gros travail qui va être initié par la direction médicale sur le repérage des violences et la prise en charge des violences. Mais au-delà de ça, c'est surtout les conséquences somatiques et psychiques des violences qui vont être vraiment une des priorités de la direction médicale sur l'année 2024, en mettant en place des formations à destination de toutes les équipes, enfin de tous les pôles du SAMU social de Paris.
Bon, c'est très bien, ça va nous permettre de faire le lien ensuite avec la fin de notre émission. On voit quand même que ces différentes actions, perspectives, elles rejoignent ce qui est mis en place par les pouvoirs publics en ce moment. Donc il y a une certaine cohérence, c'est plutôt rassurant. Alors le SAMU social a effectivement mis en place des lieux d'abri. On va un petit peu finir cette discussion en parlant de la violence qui peut être faite aux femmes, notamment des violences sexuelles. Pauline, est-ce que vous pourriez nous partager des initiatives qu'il faudrait déployer à plus large échelle pour accélérer cette prévention ?
Mais en fait, quand on parle de prévention, c'est un spectre très très large. La toute première prévention, c'est déjà de pouvoir faire en sorte que les petits garçons et les petites filles soient habitués à avoir des relations saines avec les gens autour d'eux, de la communication non violente, savoir bien exprimer leurs besoins, avoir un niveau d'estime d'eux qui est assez élevé, comme ça ils ont la capacité aussi d'exprimer leurs besoins, de coopérer avec les autres, et ils n'ont pas cette relation violente les uns envers les autres, d'impliquer tous les adultes qui sont autour. Donc tout ça, c'est le développement des compétences psychosociales. C'est vraiment le gros enjeu de notre pays, puisque le mot en lui-même, le terme en lui-même, n'est pas du tout sexy. Donc il n'y a aucun politique qui s'en empare en l'annonçant comme tel. Ils ont annoncé des cours d'empathie à l'école, qui sont en fait des ateliers pour développer les compétences psychosociales. Et donc cours d'empathie, ça passe mieux au niveau politique. Mais ça, c'est essentiel, et notamment d'impliquer tous les adultes qui sont autour des enfants. Donc ça, c'est dès le plus jeune âge. Puis après, il y a de la prévention que je dirais médicalisée, donc repérer dès qu'on est en contact avec les structures sanitaires, de pouvoir repérer le plus tôt possible des prémices et puis savoir réagir, savoir orienter. Donc par exemple, vous parliez de la CIVIS, La Civis, ça a été excellent puisque ça nous a permis de secouer un peu les formations médicales et paramédicales pour leur dire en fait c'est quoi les éléments qui doivent faire tilt quand une personne exprime ou nous tend une perche ou nous fait confiance pour nous parler un tout petit peu d'un pan de la violence qu'elle subit. En fait, il y a mille et une façons de juste la faire taire à jamais si jamais on n'accueille pas cette parole. Et donc un des points positifs de la Civis, c'est qu'il a été mis en avant le fait que c'est indispensable de former les professionnels du soin à repérer ces violences. Et moi, pareil, en tant que 12 années de médecin qui a été formé pendant 12 années, on a été exposé à beaucoup de violences faites aux enfants, faites aux femmes. Je vois en gynéco cette femme qui venait d'accoucher de son enfant et qui a été tabassée pendant qu'on n'était pas là. Et quand on est revenu, elle était couverte de bleu, elle avait le nez qui saignait, et parce que son bébé était né avec un handicap. Et le papa n'avait pas supporté. Et en fait, on est démunis. On ne sait pas quoi faire en tant que soignant parce qu'on est nus, etc. Donc il faut aussi, en tout cas, les pouvoirs publics, grâce à la Civis, ont rapproché beaucoup plus les services de police avec les services sanitaires. Parce qu'il y avait un côté où on ne dénonce pas aussi, un peu une culture où on ne dit pas les choses. Donc cette ouverture de la parole, elle est hyper importante. Donc vraiment, de la prévention en amont, dès le plus jeune âge, pour tous dans la société. Et puis, plus de la prévention médicale, savoir repérer les violences le plus tôt possible.
Oui, donc en fait, un enjeu aussi important de formation des professionnels de santé face à la prise en charge de ces violences.
Du social et du médico-social et du sanitaire, oui.
Très bien. Alors, pour conclure nos échanges, est-ce que vous auriez peut-être un mot pour qualifier la prévention en santé de la femme? Peut-être pas pour le qualifier, mais un mot qui vous vient à l'esprit pour le définir.
Moi, j'avoue que j'ai urgence, nécessaire, indispensable, tous ces adjectifs-là qui me viennent.
Je pense aussi à information, le fait de donner l'information aux femmes aussi sur toutes ces questions-là, sur leurs droits aussi, sur ces questions-là. Donc de diffuser, de vulgariser aussi toutes ces questions-là, et puis aussi de leur donner, de les accompagner dans les capacités de s'en saisir aussi, dans la capacité de s'en saisir, oui.
Bah c'est bien, ça fait beaucoup de choses.
Et puis moi, je parlerais de reprise de confiance. Il y a vraiment besoin de reprendre confiance pour pouvoir reprendre sa place dans l'espace public et aussi reprendre en main sa santé.
Bah c'est parfait.
Peut-être faire société ou peut-être le côté... Là, ça a été... Il y a une loi qui vient de sortir d'Adrien Taquet sur le fait d'être capable d'accompagner des enfants et d'en devenir les parrains et les marraines, les enfants de l'ASE, qui ont parfois des parcours, enfin même souvent des parcours déroutants. Et je me dis qu'il manque ça aussi pour les femmes, toutes ces femmes qui sont isolées, avoir une main supplémentaire tendue. Donc peut-être un côté faire société, être ensemble toute une famille ou tout un village pour élever une femme, pour faire le parallèle avec tout un village pour élever un enfant.
Ben merci beaucoup, c'est parfait. Merci.